Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Les assaillants Mobondo ont été arrêtés le lundi lors des affrontements qui les ont opposés au FRDC à la frontière des provinces du Kwilu et du Kwango. Parmi les personnes arrêtées, une femme qui gardait leur fétiche. Ils sont tous détenus au village Fatundu dans le territoire de Bagata. Nous parlerons aussi des conséquences de la grève de 2 jours des médecins et infirmiers de la ville et du territoire de Bénion-Nord-Kivu. Ces prestataires des soins affirment que c'est pour rendre hommage à 16 de leurs collègues tués dans différentes attaques des ADF dans la région, dont un infirmier titulaire et son comptable tués au début de ce mois. Le président de l'Association des pétroliers du Nord-Kivu, Apenoki, est notre invité. Providence Muhiga revient sur l'instabilité du prix des carburants à la pompe depuis les débuts de cette année. Bonjour à tous. Au moins 5 hommes armés Mobondo ont été arrêtés lundi lors des affrontements opposant les FRDC à ces miliciens à la frontière des provinces du Kwilu et du Kwango. Les forces de défense et de sécurité ont également mis la main sur une femme fétichiste qui assurait, selon eux, les forces obscures des miliciens. Ils sont tous en détention au village Fatundu, chef-lieu du secteur Wamba dans le territoire de Bagata. La nouvelle est livrée par le député national élu de Bagata, Gary Sakata, qui salue l'action des FRDC. Il alerte aussi pour obtenir une assistance en faveur des blessés du village Parking BRB qui sont actuellement en soins intensifs au village Kingala Matele. On écoute le député Gary Sakata au micro de Irène Boma.
Il y a eu des affrontements entre le FARDC et les miliciens faisant partie du groupe Mobondo. À la suite de ces affrontements, non-voyantes forces armées ont mis la main sur quelques miliciens Mobondo, à peu près 5. Et ils ont également mis la main sur une dame qui initiait ces Mobondo aux pratiques fétichistes. Tout ce petit monde se trouve être à Fatundu, où ils seront certainement acheminés vers Bandundu-Ville, où ils seront transférés à la prison centrale de Bandundu-Ville et éventuellement auditionné par le parquet. Il y a eu effectivement plusieurs blessés parmi les civils et nous demandons donc l'appui de l'État qu'il puisse prendre en charge les 6 personnes qui sont gravement blessées et qui sont au centre de santé de Kingala Matele ainsi que à l'hôpital de Kikongo en territoire de Bagata. Nous saluons et félicitons nos vaillantes forces armées qui ont amélioré leur mode opératoire en étant sur le site en vue de maîtriser tous ces criminels et bandits Mobondo.
Dans le territoire de Beni, un mouvement spontané de protestation de la population a été observé à Mangina, paralysant les activités scolaires et socio-économiques hier. À l'origine, l'installation d'un point de contrôle de l'armée dans le quartier Massimbebe sur une route de déviation vers la sortie ouest de l'entité et qui débouche sur la route nationale numéro 44. Cette voie est souvent empruntée par des fraudeurs pour échapper au paiement des différentes taxes à la barrière de Makeke, à la limite entre les territoires de Beni au nord Kivu et celui de Mambasa en Ituri. Le bourgmestre de Mangina appelle la population au calme et il invite plutôt à collaborer avec les services de sécurité. Rocky Kamba, le bourgmestre de Mangina, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Les gens ne voulaient pas la présence des éléments de l'ordre là-bas et qu'il y ait des traces ramassées sur place où l'armée est en train de faire un travail de routine. Il y a eu un malentendu entre certains habitants et les éléments de l'ordre. La population doit comprendre qu'elle n'a que cette armée dans les FARDC. Alors les FARDC peuvent avoir les autres partenaires du gouvernement, mais les FARDC, c'est l'armée du peuple. Donc, les FARDC sont là pour protéger la population et leur bien. C'est pourquoi vous allez les voir espionner, c'est juste pour chercher la paix et protéger la population. Donc, je dis à la population, la population n'est pas ennemie de l'armée. Et ça ne sera pas. Dans aucun pays, la population ne peut être ennemie de l'armée et armée ennemie de la population. Non. Nous sommes les outils que l'État lumière nous utilise pour garder la quiétude de la population. Donc, la population doit comprendre que c'est pas notre armée, quel que soit l'incident qui peut arriver parce que nous sommes des personnes, mais nous devons aimer cette armée-là, collaborer avec cette armée-là et les choses vont marcher.
La prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une question cruciale pour la paix et la sécurité. Déclaration du directeur des opérations de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre. Il l'a dit hier à Goma à la clôture d'un atelier de 3 jours pour les cadres des forces et services de sécurité œuvrant aux frontières. Selon cette commission, une enquête a révélé qu'en 2010, un nombre estimé à plus de 300 000 armes étaient détenues par des civils dans la partie est de la RDC. Bernardine Diambo.
L'organisation de cet atelier est motivée entre autres par le constat d'un manque de synergie entre les forces et services de sécurité œuvrant aux frontières, ce qui, pour le directeur des opérations de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de la réduction des violences armées basées à Kinshasa, ne facilite pas la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Bofaka Bakambo John César revient ici sur les statistiques des études menées depuis 2010 à ce sujet.
300 000 armes là, c'est seulement la partie est de la République démocratique du Congo, donc à savoir les Nord Kivu, le Sud Kivu, les Turi, les Maniema et les Tanganyika.
La société civile, pour sa part, lance une alerte sur la prolifération des armes. Maître Blaise Mumbere.
Partout, il y a une prolifération des armes. C'est comme si les armes sont vendues comme des petits pains entre les mains des personnes non autorisées.
Cet atelier de renforcement des capacités est un projet d'une initiative nationale de structures telles que la Commission nationale de contrôle des armes légères, les PDD, des RCS et la Commission permanente aux frontières ainsi que la société civile. Ils bénéficient de l'appui technique et financier de la division en charge de la réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO en collaboration avec UNMAS et le PNUD. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Hier 21 mai, l'humanité a célébré la Journée mondiale de la diversité et du dialogue. À Goma, cette journée a été marquée par une conférence tenue par l'organisation Africa Inclusion à l'intention des étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC Goma. Chris Mukande.
Ensemble dans la diversité, bâtissons et consolidons un avenir de paix, tel a été le thème choisi pour marquer cette journée. L'interactivité sur le sujet de l'impact de la diversité culturelle sur le développement de la province du Nord Kivu a été menée par le chef de travaux Jean-Pierre Kinkembwa, sociologue formation.
En fait, on a choisi la jeunesse étudiantine parce que ce sont de premières cibles de toute manipulation. Et ils ont compris effectivement qu'il faut accepter les différences, parce que ces différences sont des richesses que nous devons mettre ensemble afin de contribuer au développement de la province du Nord Kivu.
Dans son contexte actuel, la province du Nord Kivu a plus que jamais besoin de diversité, estime Freddy Bikumbi, secrétaire exécutif de l'organisation Africa Inclusion.
La diversité, c'est un point fort dans la communauté pour la cohabitation pacifique. Au Nord Kivu, on se retrouve dans des camps de déplacés de différentes origines et nous avons des points de vue différents. Maintenant, là où nous sommes, nous voulons la paix, nous voulons aussi rester dans la cohésion et donc nous devons nous accepter tels que nous sommes dans la diversité.
La convivialité a caractérisé les échanges auxquels a pris part Guy Kibira, chef de la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu. Chris Mukande, Goma, Radio Kapi.
Et avant la célébration proprement dite de cette journée mondiale de la diversité et du dialogue, nous apprenons qu'une quarantaine de jeunes filles de la plateforme U-Report Butembo ont organisé dimanche une séance de partage d'expériences, notamment d'expression en public et des métiers professionnels. Les participantes ont été sensibilisées à briser la peur et à développer l'estime de soi. Alicia Zawadi, l'une des organisatrices de cette activité, explique son importance au téléphone de Grévis Salomon.
L'idée était de créer un milieu d'échanges, de partage, mais aussi d'apprentissage entre filles. Et c'est pourquoi nous avons choisi de nous réunir autour d'une table pour permettre à chacune de nous de s'exprimer librement de choses qui lui tiennent à cœur. La parole est une force et nous devons apprendre à communiquer, à donner nos opinions en public. C'est pourquoi la prise de parole en public, comment vaincre la peur, était l'un des sujets dont nous avons parlé. Certains sujets étaient partagés aux filles pour pratiquer ce qui s'était dit. Nous avons eu un apprentissage de fabrication de sacs à perles, des décors à ballons d'air. C'était dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'autonomie. Femmes, nous devons apprendre à nous occuper de nous-mêmes, de nos besoins. Nous devons travailler pour permettre d'impacter positivement le monde. L'impossible n'est pas féminin.
Notez que cette journée a été instituée en 2001 par l'ONU dans l'objectif d'approfondir la compréhension des valeurs de la diversité culturelle pour le développement durable des communautés. L'intersyndicale des médecins et infirmiers de Béni a décrété lundi deux journées de grève qui s'est achevée hier mardi. Cette journée a été observée sur toute l'étendue de la ville et du territoire de Béni. Dans une déclaration datée de lundi, ces prestataires des soins affirment que ce geste vise notamment à rendre hommage à 16 de leurs collègues qui ont été tués lors des différentes attaques des ADF dans la région. Le dernier cas remonte à début mai à Mantumbi, où un infirmier titulaire et son comptable ont été assassinés par ces rebelles. Quelles sont les conséquences de cette grève dans les hôpitaux de Béni? Sadiq Aboubakar.
Mardi matin, il est 10h. Nous arrivons à peine à l'hôpital général de référence de Béni. Une ambulance ramène deux malades dans un état critique. Ils ont été référés des structures sanitaires périphériques de la ville. Deux infirmiers seulement se chargent de leur installation. Le médecin chef de staff de l'hôpital général affirme que seuls 5 infirmiers sont présents sur une centaine et 5 médecins du comité directeur de l'hôpital sur 25 sont opérationnels. Docteur Anicet Badilisha explique.
On fait quand même les services minimums pour gérer ne fût-ce que les urgences, donc la maternité, les soins intensifs.
La plupart des malades déclarent avoir constaté une perturbation des horaires de leur traitement. Cette femme qui a requis l'anonymat explique.
Hier, on n'a pas été soigné à temps. D'habitude, les co-soignants passent à 6h, mais lundi, ils sont passés à 10h.
Cet autre malade affirme avoir constaté une amélioration des services comparativement à lundi. En dépit des conséquences de la grève sur la prise en charge des malades, cette patiente exprime sa compassion aux prestataires de soins et interpelle le gouvernement.
La grève entraîne des conséquences, oui, mais que le président de la République s'implique pour leur cause.
En plus de la grève, ces prestataires disent suspendre l'envoi de tout rapport à leur hiérarchie jusqu'au rétablissement de la paix dans la région de Béni. Béni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis ici à Kinshasa, les experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, et ceux du Fonds des victimes de la Cour pénale internationale se rencontrent depuis hier au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Ils réfléchissent pendant 3 jours sur le développement des programmes de réparation alignés sur les normes et standards internationaux en matière des droits de l'homme. Le directeur général de FONAREV, Lucien Lundola, souligne l'importance de cet atelier au micro de Jeff Opela.
Oui, c'est une réunion hybride où nous allons faire des échanges d'expérience des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, qui ont déjà connu l'application de la justice transitionnelle dans leur pays et particulièrement dans le volet réparation. Et ces expériences vont nous permettre, nous en tant que FONAREV, que nous puissions profiter de leurs erreurs et de leurs expériences positives pour que nous puissions l'adopter et l'appliquer chez nous. Donc c'est un exercice qui est vraiment utile parce que ça nous permet de mieux orienter notre propre action en faveur des victimes.
Restons à Kinshasa où la police et l'armée mènent depuis hier mardi en début de soirée une patrouille mixte dans la ville, une décision issue d'une réunion de sécurité présidée par le commissaire général de la PNC. Sera appréhendé tout militaire ou policier en circulation sans document nécessaire, c'est-à-dire militaire ou policier en divagation. Les auteurs de nuisances sonores sont également ciblés. Le principal objectif de cette patrouille mixte, d'après ses initiateurs, est de garantir aux habitants de Kinshasa la tranquillité, la sécurité et la protection de leurs biens. Rappelons que cette décision intervient 2 jours après la tentative de déstabilisation des institutions par une quarantaine d'individus armés qui ont attaqué la résidence du ministre de l'économie Vital Kamerhe, le palais de la Nation et quelques usagers de la route à qui ils ont arraché des véhicules, tuant certains selon l'armée. Et puis cette réaction de justice à Asbel, toujours en rapport avec ces attaques de dimanche, cette ONG de défense des droits de l'homme se dit inquiète de ce qu'elle qualifie incursion des assaillants et demande à ce que des enquêtes soient menées de manière impartiale afin que toute la vérité soit connue et que les responsables répondent de leurs actes. En rapport avec cette situation, au micro de Jean Gandou, Timothée Mbouya, président national de Justicia Asbel, fait des recommandations suivantes.
Justicia Asbel invite donc le chef de l'État à prendre des mesures préventives qui s'imposent pour relever de leurs fonctions toutes les autorités politiques, de défense et de sécurité, par la négligence duquel le palais de la nation a été attaqué, ainsi que la résidence du ministre Kamere. Justice ASBL invite également tous les Congolais à privilégier le voie pacifique et légale pour accéder au pouvoir ou pour porter devant les autorités des revendications légitimes. Justice ASBL invite la justice militaire à mener des investigations en toute impartialité afin que soient traduites devant elle tous les responsables qui sont supposés avoir été négligent dans la protection de la ville de Kinshasa et dans la sécurité des personnes et de leurs biens. Elle invite également la justice militaire à poursuivre tous les militaires qui ont filmé les dépouilles de ces insurgés ainsi que les biens lors de la perquisition, car ces actes peuvent mettre en péril les enquêtes en cours.
Actualité internationale.
Les gouvernements d'Irlande et de Norvège devront annoncer ce mercredi leur décision de reconnaître un État palestinien, affirment des médias de ces pays. Dublin avait indiqué la semaine dernière qu'il allait certainement reconnaître un État palestinien avant la fin du mois de mai et Oslo laissait entrevoir une initiative similaire au cours du printemps. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un message vidéo à l'adresse de Dublin sur les réseaux sociaux X pour l'avertir du fait que, je cite, « reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran et du mouvement islamiste palestinien Hamas ». Pour Israël, les projets en ce sens constituent une récompense pour le terrorisme qui rendrait moins probable une solution négociée de la guerre dans la bande de Gaza.
L'invité.
Le président de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, Apenoki, est notre invité. Dans une interview accordée à Radio Okapi, cet opérateur économique du secteur pétrolier revient largement sur l'instabilité du prix des carburants à la pompe depuis le début de cette année. Il explique également d'autres charges additionnelles contenues dans la nouvelle nomenclature des prix du carburant. Providence Mouhiga s'entretient avec Gabriel Wamenya.
Monsieur Providence Mouhiga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le président pétrolier du Nord Kivu. Nous voulons savoir pourquoi les prix du carburant grimpent du jour au jour depuis le début de cette année.
Je ne sais pas si je dois suivre votre logique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 2850 ou plus, vous n'aurez pas le dollar. Or, même si nous vendons en francs, nous sommes obligés d'aller chercher les devises pour importer le produit. Et dans le texte, il est dit qu'à chaque fois qu'il y a hausse ou baisse de plus de 5% sur le marché international, nous devons saisir le gouvernement national, en l'occurrence le ministre national de l'économie. Et pour la bonne compréhension de tout le monde, pour que le prix change, il y a trois éléments qui interviennent. Les trois éléments, c'est le prix sur le marché international, la fiscalité et le taux de change. Pour ce qui nous concerne, pour le cas présent, c'est le taux de change.
Selon d'autres opérateurs pétroliers, il semble qu'il y a d'autres charges qui ont été augmentées sur la nouvelle nomenclature, notamment la charge qu'on appelle KPS. C'est quoi cette charge-là exactement? Et à qui profite-t-elle?
La charge dont vous parlez, c'est la politique du gouvernement qui avait été décidée dans le Conseil des ministres au mois de décembre 2023. Cette charge dont vous parlez, c'est pour essayer de désenclaver les zones qui sont enclavées en y installant des tanks pour le stockage. Donc ça, c'est une politique gouvernementale pour essayer de récolter les moyens afin d'installer dans les zones enclavées telles que le Maniema, au niveau de la province orientale, essayer d'aller installer des tanks là-bas pour éviter des ruptures de stock. C'est comme ça que par moment vous entendez que à Kisangani, par exemple, le litre, c'est devenu 10 000 francs au lieu de 4 000 francs. Pour éviter cette spéculation, la politique du gouvernement a décidé que il fallait y construire des stockages sur place. Et pour qu'il y ait des stockages, et pour y construire, il faut des moyens.
Ici, à Goma, plus précisément, beaucoup d'opérateurs pétroliers comme vous stockez vos produits dans vos propres stations. Alors, que vient faire la charge additionnelle CEP Congo?
Moi, ce que je viens de vous dire, la politique du gouvernement a décidé, parmi les zones dont je vous ai cité, je ne vous ai pas cité Goma, je vous ai parlé des zones qui sont enclavées. La charge dont vous parlez, la charge CEP Congo, elle est là, mais nous ne la payons pas. Parce qu'il y a des installations CEP Congo. Si vous voulez continuer, je crois que cette question-là, il faut aller la poser au chef du gouvernement quand il sera là, ou au président de la République, parce que c'est lui qui a présidé cette réunion-là du Conseil des ministres.
Pour éviter des rumeurs, des spéculations, des prix, puisque un citoyen moyen ne peut pas comprendre toutes les analyses et toutes les explications que vous venez de donner là. Est-ce que quel est le message que vous pouvez adresser aux consommateurs?
Le message que nous pouvons adresser aux consommateurs, c'est lequel? La structure de 2023 nous demandait de vendre à 4000 francs. Celle de 2024 nous autorise à vendre à 4200 francs. Donc, la situation, elle est ce qu'elle est. Parce que nous-mêmes, comme opérateurs économiques, nous sommes parmi les victimes de cette hausse. Parce que, entre-temps, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Si vous mettiez 10 litres dans votre véhicule, vous ne mettrez plus 10 litres, vous allez en mettre 8. Donc, quelque part, chez moi, il y a aussi un manque à gagner. Ce n'est pas les pétroliers qui contrôlent le taux de change. Mais comme nous, pétroliers, nous n'avons pas ces pouvoirs-là de changer le prix, c'est comme ça que nous recourons au gouvernement pour leur dire, voilà, essayez de comprendre, en tout cas, il y a hausse de taux de change, voyons comment on peut s'adapter.
Monsieur Providence Mouiga, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.